Alors, on va continuer notre étude. Aujourd'hui, le titre du sermon, c'est « L'enfer, la Bible enseigne sa terrifiante réalité ». La semaine dernière, on avait vu que l'enfer, c'était urgent, une nécessité d'en parler pour plusieurs raisons. Cette semaine, on va voir que, dans le fond, la Bible enseigne que l'endroit existe et que c'est un endroit vraiment terrifiant. On avait mentionné la semaine dernière certaines statistiques concernant le nombre de personnes qui décèdent chaque jour et chaque fois que des personnes décèdent, leur destinée éternelle est scellée. Alors, on avait vu, juste les questions de les revoir parce que ça nous fait réfléchir un peu. Chaque seconde, 3 personnes meurent sur la Terre. À chaque seconde, si on prend 10 secondes dans 30, à chaque heure, on est ici une heure de temps. Pendant l'heure, il va en mourir 11 000 sur la Terre. Chaque jour, aujourd'hui, la journée de dimanche, il va mourir 264 000 personnes sur la Terre. Et pour un an, en 2014, on estime à 95 millions de personnes qui décèdent. Alors, si le Seigneur n'a pas fait grâce à une âme, ça veut dire que sa destinée éternelle s'en va en enfer. Imaginez-vous le nombre de personnes, c'est énorme. Et depuis des années et des années, depuis le début de la création, il y a beaucoup de personnes qui s'en vont dans cet endroit-là. Le Seigneur nous avait d'ailleurs avisé que le chemin de la perdition était large et spacieux, et que le chemin pour aller au ciel était plutôt étroit et resserré. Alors, on se doit de faire attention d'être dans le bon chemin. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la terrifiante réalité de l'enfer qui va être dévoilée par 5 propositions. Autrement dit, on va démontrer la réalité de cet endroit terrifiant-là par 5 idées qui décrivent un peu l'endroit. Et ensuite, on va donner une réponse à 2 difficultés. Alors, bien sûr, quand on parle d'une réalité comme l'enfer, beaucoup de gens vont la rejeter pour des raisons qui ne sont pas acceptables. Mais les deux difficultés qu'on va regarder ici, ce seraient 2 difficultés qui pourraient surmonter à notre esprit, même comme chrétien, même si on croit le Seigneur et on croit que ça existe, on pourrait quand même avoir 2 difficultés qui seraient légitimes. C'est à ces 2 difficultés-là qu'on va répondre aujourd'hui. Alors, si on commence par essayer de donner une définition simple de ce que c'est l'enfer, on pourrait dire c'est le lieu du châtiment éternel et conscient des méchants. Donc, il y a une question de durée, il y a une question de qu'est-ce que les gens font là, c'est un châtiment, et c'est un châtiment qui est conscient. Donc, conscient, ça veut dire que les personnes qui sont là savent ce qui se passe, ils ont comme un niveau de conscience, un peu comme on a un niveau de conscience aujourd'hui. Souvent, on va dire, on dit c'est le lieu du châtiment éternel et conscient des méchants. Nous, en québécois, quand on dit de quelqu'un c'est un méchant, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que c'est une personne qui fait délibérément le mal. Délibérément, ça veut dire qu'il décide de façon consciente, je fais ça, je sais que c'est mal, mais je le fais pareil. Et il va le faire aussi, un méchant, selon notre définition nous autres, il va le faire de façon ouverte et agressive. Le mot est synonyme de cruel, dur, malveillant, et le contraire de ce mot-là, ça serait bon, doux et humain. Mais est-ce que c'est la définition que nous, on se donne du mot méchant. Mais est-ce que les Écritures utilisent le mot méchant dans ce sens-là? Dans la Bible, les méchants sont tout simplement les inconvertis, les pécheurs qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Alors, il faut faire attention de ne pas confondre les deux sens, là, parce que parfois, un inconverti peut être méchant dans le sens qu'on vient de voir, cruel et tout ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui vont là en enfer, qui ont mené des vies assez morales, qu'on pourrait dire entre guillemets, qui ont mené des vies acceptables aux yeux des gens. Mais est-ce que c'est acceptable aux yeux de Dieu? Ça, c'est une autre affaire. Alors, c'était important de faire la différence. Dans la Bible, le mot « méchant » veut dire les personnes qui ne sont pas réconciliées avec Dieu. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, puis vous discutez avec lui sur la rue ou n'importe quel temps, c'est un méchant que vous avez devant vous. Si vous lui dites, il va dire « Ben non, je suis pas méchant. » Un méchant, c'est quelqu'un qui tue, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui fait à peu près tous les temps, qui défie toutes les lois de Dieu. Mais dans les Écritures, un méchant, on pourrait prendre plusieurs exemples, là, plusieurs versets, pour démontrer qu'aux yeux de Dieu, un méchant, c'est une personne inconvertie. Alors, bien sûr, les Saintes Écritures nous commandent d'avertir les pécheurs de l'existence de cette terrifiante réalité et de présenter le seul moyen d'y échapper. Et nous, les Écritures ne nous disent pas, le Dieu ne nous dit pas, si ça vous tente, faites-le. Si ça vous tente pas, ben, pas plus grave que ça. Il nous commande d'avertir. Quand on y pense, les gens qui sont devant nous, qui ne sont pas convertis, on se doit de les avertir de cette réalité-là qui les guette. Moi, j'aime bien l'expression. J'avais déjà parlé de Jonathan Edwards, qui est un prédicateur américain qui a connu le Grand Réveil. Lui, il voyait ça comme un plancher pourri. Les inconvertis, c'est comme s'ils marchaient de façon continuelle sur un plancher pourri. Si vous marchez sur un plancher pourri, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que ça peut s'effondrer sous vous à n'importe quel temps. Alors, quand on rencontre des personnes qui ne sont pas réconciliées avec Dieu, il faut les voir de cette façon-là. Je pense que c'est une bonne chose. Alors, non seulement il faut les avertir que l'endroit existe, mais il faut aussi leur présenter le seul moyen d'échapper à cette terrible réalité. Et le seul moyen, selon les Écritures, c'est la personne de Jésus-Christ et son œuvre. Alors, on se doit de savoir, cependant, que quand on va avertir les gens de la réalité de cet endroit-là, ça va être reçu avec incrédulité. On l'a vu la semaine dernière, les gens ne croient pas que ça existe. Et le scepticisme, ça veut dire que même si vous leur dites, vous leur décrivez, vous leur montrez dans les Écritures les versets, scepticisme, un sceptique, c'est quelqu'un qui ne croit pas à rien. Et il va dire, c'est une réalité d'un autre siècle, c'est une affaire, un vieux concept du Moyen-Âge que vous traînez encore avec vous aujourd'hui. Il va se trouver toutes sortes de façons pour l'exclure de sa pensée parce que c'est des pensées qu'ils ne veulent pas affronter et qu'ils ne veulent pas croire ce que les Écritures disent là-dessus. Alors, les pécheurs sont portés à rejeter d'emblée ces avertissements-là. Et pour eux, c'est le fruit de notre imagination, c'est dépassé, c'est exagéré et c'est même dément. Pour eux autres, ils voyaient ça comme de la démence. Les Écritures, cependant, nous disent que le concept d'éternité, que ce soit dans une réalité du ciel ou de l'enfer, Dieu l'a placé dans le cœur de l'homme. Alors, quand vous voyez quelqu'un sur la rue, Dieu a placé le concept d'éternité dans notre cœur, à tous les hommes, sans exception. Ça nous le dit dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Ça nous dit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Les Écritures nous disent que les hommes en général, Dieu a placé dans leur cœur, ils savent que l'éternité existe. Pourquoi il y a tant de personnes qui ont peur de la mort? Parce qu'ils savent qu'il existe quelque chose après. Quelque part à l'intérieur d'eux, ils savent que s'ils décèdent dans cet état-là, ils vont passer au jugement. Et on le sait dans le fond de notre conscience, dans le fond de notre cœur, si on est réconcilié avec Dieu ou si on ne l'est pas. Si on ne l'est pas, à quelque part, c'est un peu normal que la mort nous fasse peur. Moi, j'ai connu quelqu'un ici, je ne l'ai pas connu personnellement, mais semble-t-il que quand il est décédé, il est déjà venu de cette église-ci, récemment, il est décédé. Semble-t-il que c'était... Il est décédé en toute quiétude, sereinement, sachant que, bon, la mort ne lui fait pas peur parce qu'il sait où il s'en va. Mais semble-t-il que ce n'est pas le cas de tous les pécheurs. Une personne qui a fait beaucoup de mal durant sa vie, Et même si tu n'as pas fait beaucoup de mal, les personnes craignent toujours la mort parce qu'ils craignent ce qui va arriver après. Ça explique aussi la notion de l'éternité. Comment ça se fait que c'est une notion qui est permanente dans à peu près toutes les cultures, dans à peu près toutes les religions? C'est universel. Dans l'hindouisme, l'enfer fait partie de leur croyance. Le bouddhisme, ça fait partie de leur croyance. L'islam, l'enfer existe dans leur religion, dans leur culture. Pourquoi c'est universel? Parce que, on l'a vu tantôt, Ecclésiaste 3 nous dit que Dieu a placé la notion d'éternité dans notre cœur. Mais le problème, c'est que si on utilise un autre moyen que les Saintes Écritures pour nous dire que cette réalité-là existe, oui ou non, à ce moment-là, on risque d'avoir des caricatures des deux réalités. Par exemple, prenons l'islam, qui, eux, vont dire que pour eux, le ciel, c'est de se ramasser au ciel avec 70 vierges. Alors, c'est une caricature. C'est pas vraiment ce que les Écritures disent. Alors, quand on peut parler que les deux réalités existent, mais cependant, leur façon de l'expliquer ou de la décrire est fausse, et parce qu'ils n'utilisent pas les Saintes Écritures, qui est le seul moyen, c'est la vérité de Dieu qui nous a laissé pour être capable de nous instruire sur ce sujet-là. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'on ferait une démonstration de la terrifiante réalité par 5 propositions, autrement dit 5 phrases. On va commencer par la première. L'enfer est une place créé par Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça dans les conversations. Des fois, des personnes qui ils se parlent entre eux, ils disent « Ah, c'est l'enfer! » Alors, ils veulent décrire que c'est quelque chose de difficile à vivre, quelque chose de souffrant, quelque chose de désagréable. Et pour parler de petites banalités de la vie, ils vont dire « C'est l'enfer! » »« Ah, un matin, j'ai traversé, il y avait beaucoup de trafic, c'était l'enfer! » Mais ils utilisent un mot incorrectement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre. Moi, quand j'étais allé au cégep, on avait l'obligation d'étudier certaines œuvres parce qu'on avait des cours de philosophie, des cours de littérature. Et dans les cours de philosophie, on étudiait l'existentialisme athée, qu'il appelait. Donc, Jean-Paul Sartre, c'est un grand représentant, un écrivain français qui a écrit sur le sujet de l'existence. Alors, pour lui, il disait, dans un de ses livres, il disait, l'enfer, c'est les autres. Alors, c'était vraiment une citation qui est devenue fameuse. Elle faisait partie de sa pièce de théâtre qui s'appelle « Huis clos », qui est écrite en 1943. « Huis clos » relate l'arrivée de 3 personnages en enfer. 2 femmes et un homme, cherchant à comprendre ce qui a pu les y conduire et quel est leur châtiment. Alors, la pièce, c'est ça. Là. 2 hommes et une femme qui arrivent en enfer, puis ils se demandent comment ça se fait qu'on est rendu ici, puis comment ça se fait qu'on subit ce châtiment-là. Alors, ils comprennent rapidement, selon Jean-Paul Sartre, là, qu'il n'y a pas de bourreau, car chacun des 2 autres est le bourreau pour le 3e. Alors, pour lui, l'enfer, c'est de placer 3 personnes ensemble et c'est chaque personne devient le bourreau de l'autre. Alors, il voit ça comme l'enfer, c'est les autres. Autrement dit, c'est l'autre qui crée notre malheur, que si l'autre ne serait pas là, on serait heureux. Alors, il voit l'enfer d'une façon... Alors, pour eux, leur châtiment, ça consiste à vivre pour l'éternité tous les 3, à coexister, à se détester et à se supporter. Pour Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est ça. Alors, je pense qu'il prenait pas ses sources à la bonne place. Il étudiait certainement pas les Écritures pour voir les choses comme cela. Alors, si on regarde la version complète de cette citation-là qu'il a donnée dans la pièce de théâtre, alors il dit, là je cite, « Tous ces regards qui me mangent, ah, vous n'êtes que 2, je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors, c'est ça l'enfer, je n'aurais jamais cru. Vous vous appelez le soufre, le bûcher, le grill. Ah, quelle plaisanterie! Pas besoin de grille, l'enfer, c'est les eaux. Alors, si on prend la citation complète de sa pièce de théâtre, c'est ça qu'il dit. Autrement dit, pas besoin de souffle, pas besoin de bûcher, pas besoin de grille. L'enfer, c'est juste l'autre qui est là devant moi, puis qui me juge, qui me fait mal, etc. Alors, Jean-Paul Sartre s'est imaginé sa propre notion de l'enfer. Il a caricaturé la définition biblique. Nos contemporains ne font-ils pas la même chose lorsqu'ils considèrent l'enfer comme une métaphore, comme un symbole ou un état d'esprit? Ils utilisent souvent des expressions comme « c'est l'enfer » pour décrire des expériences humaines et terrestres qui sont désagréables et souffrantes. Les Saintes Écritures, cependant, nous décrivent l'enfer comme étant un lieu. Luc 16, versets 27 et 28. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. » Acte 1, versets 24 et 25. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Donc, l'enfer, c'est un lieu créé, un lieu de tourment créé par l'Éternel lui-même. Matthieu 25, verset 41. Ici, on a le jugement. Par le Seigneur lui-même, il dit. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Quelle phrase terrible que les humains vont entendre un jour. « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc, la première proposition, c'est que l'enfer est une place, un lieu créé par Dieu lui-même. La deuxième proposition, c'est que l'enfer est une place de punition éternelle, juste et terrible. L'enfer n'est pas un endroit pour réhabiliter les pécheurs. Moi, j'ai déjà travaillé dans un pénitencier pendant 5 ans. Et la notion qui était bien à la mode à cette époque-là, c'était qu'on prend une personne criminelle, on l'emmène en prison, on cherche à lui donner de l'éducation, on cherche à le réhabiliter, le rendre meilleur, le réintroduire, la réinsertion sociale, qu'on appelait ça. On cherchait à le prendre, à le corriger pour le réinsérer dans la société. Mais l'enfer, c'est pas ça. On n'emmène pas quelqu'un en enfer dans le but de le rendre meilleur, dans le but de l'améliorer. Un lieu de châtiment, c'est très différent. Alors, c'est un endroit pour rétribuer et donner la punition méritée pour tous les péchés commis sur la terre envers les deux tables de la loi. On le sait, il y a deux tables de la loi, les 10 commandements, les 4 premiers commandements, sont les devoirs que tous les hommes ont envers Dieu lui-même. Les 6 derniers sont les devoirs que les hommes ont envers leurs semblables, les autres êtres humains. Alors, on a c'est ça qui va nous juger, c'est ça qui va déterminer, parce que les Écritures nous disent que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est les 10 commandements de Dieu qui nous montrent qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui n'est pas péché. Quand on parle d'une punition éternelle, juste et terrible, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est juste. La punition infligée aux damnés sera absolument juste. Elle sera proportionnée au nombre et à la gravité des péchés commis et aussi accrue par les privilèges reçus. Quand on parle de juste, autrement dit, un Chinois à l'autre bout de la Chine qui n'a jamais entendu parler du Seigneur Jésus, Il va être jugé pour ses péchés en pensée, en parole, en action et en omission. Mais puisqu'il n'avait pas la lumière des Écritures, sa punition va être moins sévère que quelqu'un qui aurait été dans une église toute sa vie, qui aurait eu la Bible dans ses mains toute sa vie et qui, dans le fond, n'aurait pas été sauvé. Parce que la punition est directement proportionnelle à la lumière reçue et aussi au nombre et à la gravité des péchés. Bien entendu, disons, je ne sais pas si disons, ma mère t'a sauvé. Je ne sais pas. Mais disons qu'elle ne l'était pas. Moi, à mon avis, à moi, elle a mené une bonne vie. Elle a mené une vie raisonnable, pas trop dans le péché, dans la dissolution, qu'on pourrait dire. Mais ma façon de voir les choses et la façon de Dieu, c'est complètement deux choses différentes. Pour moi, après avoir fait une multitude de péchés dans sa tête, dans son esprit, et moi, je ne les connais pas. Après avoir fait une multitude de péchés par sa bouche, par ses paroles, que moi, je n'ai pas entendues, et que je suis bien mal, bien mauvais juge pour juger de la gravité de ça. Après l'avoir fait dans ses actions, après l'avoir fait dans ses omissions, et après l'avoir fait même qu'elle n'est même pas au courant qu'elle l'a fait. Alors, c'est juste. Autrement dit, ça va être proportionné au nombre de péchés que tu as fait. Plus tu vas en avoir fait, plus ta punition va être grave. Puis plus la gravité de tes péchés va être grande. Comme par exemple, quelqu'un qui a tué. Par exemple, on entendait parler des Hells Angels à Montréal, il y a quelques années. Je me souviens qu'il en avait attrapé un, si je me souviens bien, son nom c'était Apache Trudeau. Il l'avait appelé Apache. Lui, il était un tueur à gages. Autrement dit, lui, tu avais juste à lui donner 50 000 $ puis tu disais, lui, là, je veux qu'il disparaisse. Et lui, son travail, c'était de surveiller ses allées et venues dans le but de l'éliminer. Alors, une personne comme lui, qui décède, qui a tué 50 personnes de sang-froid pour de l'argent, bien sûr que sa punition en enfer va être plus grande qu'une personne, disons, qui était un bon travailleur, mais qui a élevé sa famille du mieux qu'il pouvait, etc. Alors, la gravité des péchés y fait, et aussi le nombre des péchés, et également, comme on a dit, selon la lumière reçue. Voyez-vous, on peut prouver ça par les Écritures dans Luc 12, versets 47 et 48. Le Seigneur lui-même dit, « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. » Plus vous allez avoir reçu de lumière, plus Dieu va être exigeant envers vous. Vous souvenez-vous quand le Seigneur a dit « Malheur à toi, Chorazin, et parce qu'il dit, et on va la lire de toute façon, Matthieu 11, verset 21-24. Le Seigneur, il dit lui-même, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. » Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ?» Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Voyez-vous, ici on voit un exemple. Sodome était reconnu pour la gravité de leur péché public, leur péché dont ils n'avaient aucune honte. Et la Bible nous dit que ceux qui ont connu Jésus lors de sa première venue sur la terre, les villes dont il nous parle de Chorazin, il nous parle de Bethsaïda, il nous parle de Capernaum, il dit que à cause du fait qu'ils ont reçu la lumière de Christ, leur punition au jour du jugement va être plus grave que ceux de Sodome et Gomorre. Voyez-vous? C'est selon la lumière reçue. Marc 12, versets 38 à 40. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous les scribes qui aiment à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Voyez-vous, c'est un exemple. Les scribes, c'était ceux qui étaient chargés de copier les Écritures. À l'époque, c'était pas comme nous, t'as pas de l'imprimerie. C'était, on prenait des rouleaux, on écrivait mot par mot toutes les Écritures. Les scribes, c'était des gens qui connaissaient les Écritures. Alors, le fait qu'ils connaissent les Écritures, le Seigneur il en parle ici, il dit qu'il dévore les veuves. Alors, autrement dit, ils connaissaient les Écritures, mais qu'ils faisaient, ils étaient méchants envers les personnes qui étaient désavantagés socialement. Il n'y avait plus de mari, donc ils exploitaient. Ils exploitaient les faibles. Puis ils disaient qu'ils font pour l'apparence de longues prières. Alors, c'était des gens qui aimaient parader, qui aimaient démontrer leur spiritualité. Le Seigneur, il dit, ils seront jugés plus sévèrement. Alors ça parle de la question d'une punition qui va être juste. Maintenant, l'aspect terrible, on avait dit juste, terrible et éternel. Maintenant, on va prendre l'autre qualificatif, terrible. L'enfer est décrit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même comme étant un endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents, où le ver de leur conscience les dévorera et où le feu torturera éternellement. Matthieu 8, 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand on regarde dans les évangiles la quantité de versets qui sont donnés par le Seigneur Jésus lui-même, alors, bien souvent, quand on va discuter de l'enfer avec des gens et qu'ils vont nous dire « Ah, c'est une conception du Moyen-Âge, vous êtes dépassés, c'est pas vrai », moi, à ce moment-là, quand des fois j'avais des discussions avec des gens sur la rue, les emmenais toujours dans les Écritures. Les emmenais, j'ouvrais ma Bible, je disais « Ah oui, tu dis ça ». Fait que là, je lui montrais le passage où c'est Jésus qui parle. Puis là, je lui donnais le passage, puis je disais « T'es-tu en train de me dire que Jésus est menteur ?» J'en ai jamais pogné un qui a osé me dire « oui ». Il disait « Oups », là, il voyait qu'il y avait un problème. Jésus lui-même parlait de cette réalité-là. Marc 9, verset 43-48. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. Aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. Encore le mot géhenne deux fois. Dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir tes deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Trois fois dans le passage, le Seigneur Jésus lui-même utilise le mot géhenne. Il dit « Où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Apocalypse 14, versets 10 et 11. « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. » Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de la chimie. Je vois quelqu'un devant moi. Je suis sûr qu'elle en a déjà fait parce qu'elle est chimiste de profession. Le feu et le soufre, si vous mettez du soufre sur du feu, ça fait pouf! C'est comme quelque chose qui accélère le feu. Alors, ça nous dit que dans l'enfer, il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Alors, le soufre rend le feu plus puissant, plus fort. Il dit « Devant les saints anges et devant l'agneau, voyez-vous, il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. » Donc, on a vu que c'est un lieu qui est juste, qui est terrible et qui est aussi éternel. Éternel, ça veut dire que tu rentres dedans, puis si tu rentres dedans, tu n'en sortiras jamais. Jamais. Pour nous, c'est difficile de saisir la notion de l'éternité, parce que pour nous, on vit dans un siècle où tout est temporel. Le temps, on connaît la notion du temps. Mais quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui ne finit pas. T'embarques là, ça finira jamais, brûler les vers de la conscience, et ça va être épouvantable. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Il parle ici des gens qui sont irrégénérés, qui sont inconvertis. Il dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Quand vous allez dans le grec, si vous allez jamais, vous prendriez une étude, le mot aionios, c'est le mot aionios. Aionios, ça veut dire d'une durée éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, Dieu nous a donné la vie éternelle. Le mot qui est utilisé, c'est aionios. Puis quand vous parlez de perdition ou de ruine éternelle ou de châtiment éternel, c'est le même mot qui est utilisé. Alors, c'est vraiment un argument extrêmement fort. On sait que les Écritures nous le disent, 2 Timothée 3, verset 16, « Toute Écriture est soufflée de Dieu, est inspirée de Dieu. Les mots même, le choix des mots pour les Écritures ont été choisis par l'Éternel lui-même, par le Saint-Esprit. » Pourquoi l'Éternel aurait choisi un mot qui serait différent quand on parle du ciel de celui? Alors, c'est le même mot. Un parle de la ruine éternelle, du châtiment éternel. L'autre parle du ciel. Matthieu 25, versets 41 et 46. « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et verset 46. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Et vous, le mot « éternel » dans le même verset, si l'Esprit de Dieu choisit le même mot, alors ça parle de la même réalité. Alors la vie éternelle, c'est dans le ciel pour l'éternité, ça non plus, ça n'aura pas de fin, mais ceux qui vont aller châtier dans l'enfer, ça va être un châtiment éternel. Troisième proposition, on avait dit qu'on en avait cinq, on est rendu à la troisième. L'enfer est une place pour le diable et pour les inconvertis. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voyez-vous, il y a quelque chose ici d'important. Des fois, on peut lire, mais avec peu d'attention. Moi, la notion que j'avais de l'enfer quand j'étais jeune, c'est que quand on arrivait en enfer, c'était le diable qui nous tourmentait avec sa grosse fourche. On avait des images là, avec un diable avec une queue rouge, là, puis il y avait une grosse fourche dans les mains et deux grosses cornes. Est-ce que c'est ça que les Écritures nous enseignent? Regardez ici. « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés. » Qui va être tourmenté? Le diable, le faux prophète et la bête. Vont, c'est eux qui vont être tourmentés. Ils ne seront pas les tourmenteurs. Ils vont être les tourmentés. Et je serais curieux, je disais à quelqu'un, si on ferait au début, avant de faire la série, si on ferait un questionnaire pour vérifier est-ce que vous croyez qu'en enfer nous serons tourmentés par le diable, oui ou non. Je serais curieux de faire un questionnaire, disons qu'il y aurait, je ne sais pas, 30 questions, pour savoir jusqu'à quel point on continue de garder des vieilles notions qui nous ont été inculquées par notre religion catholique. À quelque part, il faut toujours revenir aux Écritures pour corriger nos fausses conceptions. Voyez-vous, ici, il y en a une fausse conception qui est détruite juste par le verset. Le diable ne tourmentera pas personne en enfer, c'est lui qui va être tourmenté. Jude 1, verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, encerné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. L'enfer est une place pour le diable, on vient de le voir, et ses anges, et les inconvertis. Luc 8, verset 31, Jésus lui demanda, parlant à un démon, dit, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Et le verset 31, « Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. » Alors déjà, les démons qui étaient présents, quand ils priaient Jésus de ne pas aller dans l'abîme, ils savent leur destinée éternelle. Ils la savent déjà, mais ils continuent à persister dans le mal quand même. Apocalypse 21, verset 8. Là, on vient de parler du diable et de ses anges. Maintenant, les hommes. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Alors là, ici, on parle des hommes. Les hommes qui ne sont pas réconciliés avec Dieu, qui ne sont pas sauvés, leur destinée éternelle va être cet endroit-là. Et 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8. « Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » Il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce passage-là. Ça parle de connaître Dieu. Ça parle d'obéissance. Alors, il dit qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ça, c'est une affaire. Et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Alors, il faut vraiment s'arrêter et réfléchir un peu que l'Évangile, c'est pas juste une question d'adhésion à une notion intellectuelle. Parce qu'on pourrait très bien croire que le ciel existe, que l'enfer existe, que Dieu punit les méchants, que Dieu récompense les bons. Et on pourrait dire, oui, je crois à ça, puis penser que la foi, c'est ça. La foi, c'est pas juste ça. C'est ça, entre autres, ça prend l'adhésion intellectuelle, mais ça prend aussi l'obéissance qui se concrétise dans notre vie de tous les jours. Et si c'est pas présent, ça pourrait arriver que tu aies une fausse foi. Il n'y a rien de plus terrible que ça. Quand on y pense tantôt, ça disait que si quelqu'un se dit croyant et qu'il va arriver, on a vu la semaine dernière dans Matthieu 7, qu'il y a des gens qui vont dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas... etc. » Et le Seigneur va dire « Retirez-vous de moi, maudit, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. » Autrement dit, on ne peut pas vivre une vie de simple adhésion intellectuelle à des vérités bibliques et de ne pas ajuster notre comportement en conséquence, parce que si on fait ça, ça démontre tout simplement que notre foi est fausse et n'est pas authentique. Et une foi qui est fausse, c'est une foi morte, comme Jacques l'a dit dans son épître, une foi morte, ça va t'amener directement en enfer. C'est pas la véritable foi. Alors, il faut faire attention. Dire qu'on croit, c'est une chose, mais il faut démontrer l'authenticité de notre foi par l'obéissance à Dieu. Quatrième proposition. L'enfer est l'irrévocable destinée des incroyants à leur mort. Ça, c'est peut-être l'aspect le plus terrible de cet endroit-là. Si on disait à quelqu'un, tu vas aller en enfer à cause des péchés que tu as commis sur la terre, et tu vas demeurer dans ce terrible endroit-là pendant 1000 ans. Et il dirait, ça va être très long. Mais un moment donné, il y a au moins un espoir qu'un jour on va en sortir. Mais juste l'idée que tu es dans un endroit aussi souffrant, en aussi mauvaise compagnie, où ta conscience va te reprocher toutes les fois que tu as entendu parler de l'Évangile, ça va être épouvantable de savoir que tu ne peux pas sortir de là. Alors, au jour du jugement, les corps des incroyants qui sont morts seront ressuscités de leur tombe, réunis avec leurs âmes et jetés dans le lac de feu. Nous devons nous rappeler que leurs âmes sont déjà en enfer. Il n'y a pas de salle d'attente entre le ciel et l'enfer dans l'univers, pas de sommeil de l'âme ou de période d'inconscience avant la deuxième venue de Christ. Alors, il y a des religions qui enseignent ça, les Adventistes du septième jour enseignent ça, les Témoins de Jéhovah enseignent ça, que c'est un lieu, que les Témoins de Jéhovah disent que c'est temporaire, puis qu'éventuellement tu vas être détruit. Et les Adventistes disent qu'entre le moment de ta mort et le moment de la résurrection, tu n'as pas conscience de rien. Alors, il faut faire attention de vraiment bien interpréter ce que les Écritures nous disent. Le mot hébreu « Sheol » de l'Ancien Testament et le mot grec « Hadès » du Nouveau Testament ont été utilisés par certains théologiens comme se référant à un état intermédiaire, neutre et occupé par tous les hommes avant le retour de Christ. Ceci est dû à une mauvaise interprétation de ces mots, car ils ont une double signification. Par exemple, le mot « Sheol » peut avoir deux sens, « tombeau » et « enfer éternel ». Si vous prenez une étude exhaustive, ça veut dire que vous prendriez tous les versets de l'Ancien Testament où vous voyez le mot « Sheol » et vous regardez comment les traducteurs des Écritures les ont traduits dans le temps. Il y a des endroits où ils l'ont traduit correctement comme « tombeau ». Autrement dit, « Sheol », parfois, ça veut dire « la tombe ». Et d'autres endroits, c'est véritablement l'enfer éternel. Comment les traducteurs peuvent faire pour savoir si on doit traduire tombeau ou si on doit traduire enfer éternel? C'est toujours le contexte. Toujours le contexte. Alors, c'est sûr que les théologiens qui ont cherché à vouloir exclure la notion d'enfer dans l'Ancien Testament, ils ont dit, le faux raisonnement est le suivant. Puisque le mot « Sheol » veut parfois dire « tombeau », donc ça ne veut pas dire « enfer éternel ». Voyez-vous, un mot qui peut avoir deux sens, faut que tu fasses attention de comme façon tu le traduis, parce que sans ça, tu peux dire « ben oui, ça veut juste dire « tombeau ». Autrement dit, tu prends le sens qui fait ton affaire, puis tu jettes l'eau. La traduction doit donc se fonder sur le contexte. La version King James a correctement traduit le mot « Sheol » dans son contexte. Parfois, le mot est traduit par « grave », qui veut dire « tombeau », et parfois par « hell ». Si vous prenez la King James, il y a le mot « hell » est directement dans l'Ancien Testament, qui veut dire « enfer ». Alors, les croyants sont immédiatement avec Christ dès leur moment de décès. Luc 23, 43, quand il parle ici aux voleurs, il parle aux deux voleurs, celui qui s'est converti, il dit, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il n'a pas dit, « Quand je reviendrai à mon second retour, aujourd'hui. » Ça veut dire que dès le moment de ta mort, le croyant s'en va avec Dieu. Quant aux inconvertis, ils vont en enfer dès leur mort. Ils n'ont pas de deuxième chance, n'ont plus d'espérance, et leur destinée est scellée irrémédiablement et irrévocablement. Autrement dit, quand un inconverti meurt, ça va en enfer tout de suite. La seule différence qu'il va avoir avec sa destinée éternelle, ça va être le fait que, pour le moment, avant le jugement général, ça va être uniquement avec son âme. Mais au jugement général, son corps va être réuni à lui. Et là, à ce moment-là, ça va être dans l'enfer avec l'âme réunie avec le corps au jugement dernier. Alors, Luc 16, versets 23 et 24. « Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'ils étaient en proie au tourment. » Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Voyez-vous, il est là avec son âme, mais ça lui fait, il dit, « Je souffre cruellement. » Alors, une âme, c'est immatériel. Mais les Écritures nous disent que même malgré le fait qu'il n'aura pas son corps encore, il va souffrir comme s'il l'avait. Cinquième proposition. L'enfer est gouverné par Dieu et existe pour sa gloire. Là, ici, il faut faire attention parce que ce n'est pas l'habitude qu'on a de penser. Nous devons corriger certaines idées populaires concernant l'enfer. D'abord, l'enfer est parfois présenté comme étant hors de la présence et de la portée de Dieu. Les gens perçoivent parfois l'enfer comme un vaste entrepôt de déchets nucléaires dans lequel Dieu va enfermer les damnés, qu'il va le sceller, l'enfouir hors de toute portée et sera oublié à tout jamais. Rien n'est plus faux. Il est possible que cette fausse idée ait été développée à partir de l'œuvre de John Milton, qui s'appelait « Paradise Lost », dans lequel il fait parler Satan de la manière suivante lors de son arrivée en enfer. Alors, il écrit un livre qui s'appelle « Paradise Lost », et dans ce livre-là, Satan, quand il arrive en enfer, il dit quelque chose. Voici ce qu'il dit. « Ici, au moins, je serai libre. Je régnerai en toute sécurité, en toute liberté de choix. Il est mieux de régner en enfer que de servir au ciel. » Nous pouvons affirmer que ce serait l'espérance de Satan, l'éloignement définitif de Dieu, être son propre maître, même si cela implique la misère la plus absolue. Plusieurs croient ce mensonge qu'en enfer, c'est Satan qui règne. En enfer, comme partout dans tout l'univers créé, c'est l'Éternel qui règne. Luc 12, verset 5, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Dieu est présent en enfer parce que les damnés sont tourmentés dans sa présence. L'enfer n'est pas la séparation spatiale de Dieu, car Dieu est omniprésent. Apocalypse 14, verset 10, « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. » Regardez bien la dernière partie du verset. « Devant les saints anges et devant l'agneau. » Alors, le tourment se fait devant Jésus-Christ, l'agneau, c'est Jésus-Christ. Leur tourment se fait devant eux. Psaume 139, verset 8, dans la version Darby. Ça dit, aussi on parle de l'omniprésence de Dieu. « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, t'y voilà. » En anglais, ça dit « If I ascend up to heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. » Il parle de Dieu. Il dit « If I ascend into heaven, si je monte aux cieux, tu y es. Si je, puis en français, c'est « si je me couche au Sheol ». Voyez-vous ici, la King James, ils l'ont traduit « Sheol », pas par « grave ».« If I make my bed in hell, thou art there. » Le Seigneur est présent en enfer. C'est fort probablement ce qui rend le châtiment si terrible. La personne qui t'a condamné va être devant toi continuellement. Comme toute autre chose dans l'univers, l'enfer existe pour la gloire de Dieu. Apocalypse 11, versets 16 à 18. Ici, on sait les 24 vieillards qui sont devant l'agneau. Ce sont, on pourrait dire, les représentants de tous les rachetés de toutes les époques. Voici ce qu'ils disent au Seigneur. « Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les grands et les petits, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Voyez-vous, les 24 qu'on pourrait dire représentants de tous les rachetés de la terre, quand il regarde la destinée éternelle que Dieu accorde, soit aux méchants ou soit aux bons, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se prosternent sur leur face et ils disent, ils adorent Dieu et ils disent, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tout est juste en lui. Alors, on sait que tous les croyants vont approuver de façon automatique devant Dieu la destinée éternelle, soit des méchants ou soit des bons. Maintenant, on parlait tantôt, on a passé à travers les 5 propositions qui nous démontrent que les Écritures enseignent la terrible réalité. Alors, on va regarder maintenant les 2 difficultés. Les 5 propositions qu'on vient d'examiner peuvent susciter des questions dans nos esprits. Certains problèmes que les gens ont avec la doctrine de l'enfer sont légitimes. Ces difficultés sont authentiques et ne sont pas causées par l'incrédulité ou par leur répugnance à accepter l'enseignement de Dieu. Des hommes et des femmes vivant pieusement peuvent éprouver de la détresse et des luttes intérieures sérieuses devant certaines difficultés concernant l'enfer. Nous croyons qu'il est utile de répondre à 2 des plus répandues. La première, est-ce que l'enfer serait disproportionné en termes de sévérité? N'est-ce pas qu'on s'est déjà posé cette question-là? Moi, je me suis déjà posé, en tout cas. Parce que si je prends la vie, on va prendre un exemple d'un être cher, ma mère, c'est en enfer ou c'est au ciel, je ne le sais pas. Mais une supposition pour les besoins de la discussion qu'elle sera en enfer. À mon avis, il me semble qu'elle ne mérite pas d'aller dans un lieu si terrible pour une si longue période de temps et de souffrir avec une telle intensité à mon appréciation à moi. Voyez-vous, on voit les choses avec notre point de vue humain, avec notre point de vue de pécheur, qui est, notre intelligence est enténébrée, notre intelligence est... Alors, bien sûr qu'on peut se poser cette question-là, ça peut nous sembler à première vue disproportionné en termes du mal que moi j'ai pu faire. Elle en a fait du mal dans sa vie, c'est sûr, tous les êtres humains en ont fait. Mais moi, il me semble qu'à première vue, ça semblerait disproportionné. À première vue, la durée des souffrances des damnés, leur sévérité semble disproportionnée par rapport aux offenses des hommes. Les péchés n'ont-ils pas été commis sur une courte période de temps? Elle est morte à 60 quelques années. Celle d'une vie terrestre. Est-il raisonnable de croire que Dieu veuille les punir éternellement et dans de si atroces souffrances pour ces péchés-là? Comment pouvons-nous éviter la tentation d'accuser le Seigneur d'injustice ou de cruauté? Alors ici, il faut faire attention, là. On est des croyants. Nous devons chercher la réponse dans 2 directions à cette affaire-là. Notre appréciation plus que boiteuse de la gravité, de la culpabilité et de l'horreur du péché, et notre compréhension défectueuse et fragmentaire de la majesté de Dieu, de sa sainteté et de ses perfections infinies. Il faut regarder dans 2 directions. Autrement dit, on est des pourris enténébrés. Comment pouvons-nous juger ce que l'Éternel décide? Et l'autre direction, c'est qu'on est loin, mais très loin. Ça, j'en suis pleinement convaincu pour moi, personnellement. Puis je pense que ça doit être la même chose pour vous autres. On n'a pas la moindre idée. On a, oui. On a l'idée que les Écritures nous enseignent. Mais la sainteté de Dieu, quand on dit que les archanges qui sont en sa présence, qui marchent devant lui, quand ils se présentent devant lui, ils se couvrent les yeux, ils se couvrent les pieds, ils crient devant eux, « Saint, 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 l'Éternel! » La sainteté de Dieu, ça nous dépasse. Et ça nous dépasse de infiniment. C'est tellement élevé qu'on ne peut même pas imaginer ce que... Voyez-vous, Ésaïe, qui était un homme, un prophète, « Malheur à moi! Mes lèvres sont pures, ont vu l'Éternel! » Il a fallu que l'Éternel lui envoie le charbon, touche à ses lèvres pour dire... Alors, 2 directions. Premièrement, notre appréciation du péché est vraiment en deçà de ce que ça devrait être. Et l'autre appréciation, c'est qu'on est loin d'apprécier la sainteté de Dieu, sa majesté et aussi l'ensemble de ses perfections infinies. Quand on insulte, disons, un bum de la rue, puis si j'insulte la reine d'Angleterre, je pense pas que les gens m'en veulent de la même façon. Insulte un bum, c'est pas correct. Mais plus la dignité de la personne est élevée, plus je risque d'avoir des problèmes sérieux. Mais la reine d'Angleterre, comparée au bum, la distance n'est pas si grande que ça, quand on le sait, quand on connaît la dépravité du cœur humain. Mais la distance entre la reine d'Angleterre et Dieu, c'est infini, ça se compare même pas. Alors c'est ça, c'est là qu'il faut aller chercher nos réponses. À cause de notre état de pécheur, on ne peut pas vraiment apprécier la gravité du péché. Et à cause du fait qu'on connaît mal, c'est-à-dire on connaît imparfaitement notre Dieu, on est des très mauvais juges en cette matière-là. J'aimais bien ici l'auteur utiliser un exemple. Il dit « Notre société contemporaine est dans un état de vaste chaos éthique. Imaginons un groupe de professionnels partageant un repas dans un restaurant d'une grande ville. Dans leur discussion, l'une pourrait mentionner son récent avortement ou l'autre raconter son aventure adultère ou sa relation homosexuelle sans que personne ne s'en soucie véritablement ou qu'une désapprobation ne soit exprimée. Mais imaginez la réaction si l'un d'entre eux allumerait une cigarette dans un lieu de non-fumeurs. On assisterait alors à une réaction d'horreur, de dégoût et de choc. Est-ce que exhaler de la fumée de tabac est plus répréhensible que de tuer un enfant dans le sein de sa mère ou de vivre une perversion sexuelle? Considérons-nous que ces gens sont compétents pour juger des jugements moraux et de décider comment le Seigneur doit punir le péché? Voyez-vous, il ferait un drame pour une cigarette, puis des péchés très graves, il sourcille même pas. Alors c'est ces gens-là qui vont venir juger de la gravité, comment le Seigneur doit châtier le péché. Ils ne peuvent même pas distinguer la méchanceté et les mauvaises manières. Le péché est la pire chose imaginable. C'est la créature défiant la volonté de son Créateur et c'est le refus de lui obéir et de l'adorer. La gravité d'une offense est toujours en rapport avec la dignité de celui contre qui elle est commise. Pour pouvoir l'apprécier, il nous faudrait réviser tous les attributs infinis de Dieu et de comprendre leur extension, nous ne le connaîtrons jamais exhaustivement. Alors, quand on parle de connaître leur extension, il faudrait nommer les 25 attributs, puis il faudrait aller au bout. Puis comme même quand on va être dans le ciel, on découvrira jamais ça exhaustivement, qu'on dit complètement. Comment nous, on peut être organisés pour juger de ces choses-là? Il faut aussi comprendre que les pécheurs en enfer continueront de pécher. Ça, c'est une autre affaire qui est importante de réaliser. Parce que les pécheurs, à partir du moment qu'ils vont être condamnés, vont continuer de pécher en enfer. Apocalypse 22, verset 11. « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Le grand théologien John Dagg, qui a vécu entre 1794 et 1884, fut considéré comme l'un des baptistes américains les plus respectés et l'un des plus grands théologiens de sa dénomination. Voici ce qu'il écrit concernant les damnés qui continueront de pécher en enfer. Vous le donnez en anglais, vous le traduirez rapidement après. « A sinner cannot become innocent by being confirmed in sin. The future condition of the wicked is chiefly terrible because they are abandoned by God to the full exercise and influence of their unholy passions and the consequence accumulation of guilt forever and ever. » Traduction libre, ça c'est ma traduction. J'espère que je l'ai faite correcte. « Un pécheur ne peut pas devenir innocent lorsqu'il est confirmé dans sa nature pécheresse. La condition future des méchants est surtout terrible parce qu'ils sont abandonnés par Dieu au libre exercice et à l'influence de leurs passions impies et à l'accumulation conséquente de culpabilité à tout jamais. » Autrement dit, ils sont là, puis ils sont déjà là pour l'éternité, mais chaque fois que tu fais un péché qui blasphème, ça augmente leur culpabilité. Autrement dit, c'est ce qui explique pourquoi ils n'en sortiront jamais. Pour bien comprendre la gravité du péché, Nous devons méditer sur la croix et sa nécessité dans le salut. Les doctrines de l'expiation vicariale. Vicariale, ça veut dire qu'il a pris les souffrances qui auraient dû être les nôtres à notre place. Et celles de l'enfer sont intimement reliées. Elles tiennent ou tombent ensemble. Ça, c'est Edward Dernally qui dit ça. The cross and hell stand or fall together. Mais, la deuxième difficulté, mais Dieu est amour, l'enfer n'est-il pas contraire au caractère de Dieu? Ça, c'est la deuxième difficulté. On se dit, bien, si Dieu est amour, comment ça se fait qu'il peut tolérer une affaire pareille? Cette question pose une autre difficulté. Comment un Dieu qui est miséricordieux peut-il permettre que certaines de ses créatures aillent au tourment éternel? Dieu n'est-il pas un Dieu d'amour? Bien sûr que Dieu est amour, mais il est aussi juste. Les attributs de Dieu s'harmonisent ensemble et ne s'opposent pas. L'amour de Dieu ne peut pas être opposé à sa sainteté parce que ses attributs sont complémentaires. Il est saint, mais il est juste. Les deux ne peuvent pas se séparer. Dieu ne peut pas se renier lui-même. L'indifférence au péché et son absence de punition adéquate serait-elle une vertu? Les incroyants utilisent l'enfer pour accuser Dieu de manquer d'amour et d'échouer d'être miséricordieux. Mais examinons ce que disent les Saintes Écritures. Romains, chapitre 5, versets 6 à 8. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste? Quelqu'un pourrait-il mourir pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Suggérer que l'existence de l'enfer remette en question l'amour de Dieu est un blasphème. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Et quelles sont les applications qu'on peut faire du texte aujourd'hui? Deux. Premièrement, la première, nous devons obéir au Seigneur et avertir constamment et courageusement de l'existence de cet endroit terrible. C'est une place créée par Dieu, un lieu de punition juste, terrible et éternel, un lieu pour le diable, les démons et les inconvertis, une destinée irrévocable pour les incroyants à leur mort, un endroit où Dieu est présent, qu'il gouverne et qui existe pour sa gloire. Deuxième application, prenons le temps d'examiner et de bien comprendre les réponses que la Bible donne aux difficultés. L'enfer est-il sévère de façon disproportionnée? Et l'enfer va-t-il à l'encontre de l'amour de Dieu? Prions pour l'aide du Saint-Esprit dans cet exercice. Que notre Dieu, notre grand Dieu, soit glorifié éternellement.